Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour Clément Gis.
Bonjour.
Vous avez 32 ans, vous êtes journaliste au M, le magazine du Monde, après quelques années passées à Libération, dans la rubrique culture, et plus particulièrement au service cinéma. Et vous publiez chez Stock votre premier livre, Vadim, le plaisir sans remords, où vous revisitez la vie de Roger Vadim, le fêtard de Saint-Germain d'après-guerre et de Saint-Tropez, l'homme qui aimait les femmes, qui a épousé Brigitte Bardot, Jane Fonda, Annette Stroyberg, Catherine Schneider, Marie-Christine Barrault. Vadim, l'homme qui recherchait dans l'insouciance des fêtes la porte qui mène vers le bonheur. Vadim le dandy, plutôt que Vadim le cinéaste, l'hédoniste plutôt que l'artiste. Mais Roger Vadim, c'est une autre époque. Roger Vadim, comme sujet de livre, est une idée qui vous a été soufflée par une amie, je crois, et d'autres amis ont insisté pour que vous, né en 1985, parliez de cette époque et de cet homme-là. Pourquoi ?
Beaucoup de gens m'ont découragé, beaucoup de gens m'ont incité pour que je le fasse, mais en tout cas, il y avait une chose qui était assez claire, c'est que dès que je disais le mot Vadim, autour de moi, on me disait toujours la même réflexion en disant « quel personnage ?». Et l'autre chose, c'est que on me disait « mais c'est un truc à l'ancienne, c'est une autre époque, c'est ancien, etc. ». Je me suis un peu plongé, évidemment, dans les vidéos, j'avais des souvenirs de films, etc. Et à chaque fois, transparaissait quelque chose, des choses très diverses, l'idée du bonheur, ce qui semble être une vérité commune, une vérité première. L'idée aussi que tout était daté, que tout était suranné, que c'était une autre époque qui n'existait plus. Mais quand même, quelque chose était resté. Je sais pas pourquoi, je sais pas, au début, j'arrivais pas trop à me l'expliquer.
Mais qui vous a soufflé ce
C'est Marie-Dominique Lelièvre, qui est une biographe et une excellente écrivain, qui m'a un jour comme ça dit, vous devriez faire un livre où Vadim n'a jamais été fait. À l'époque, il n'avait pas été fait.
Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un parallèle entre votre vie, votre présent et fut la jeunesse.
On venait de se rencontrer 2 heures avant. Elle m'a dit ça comme ça. Et l'idée est restée, l'idée m'a trotté dans la tête. Et ce qui m'intéressait, c'est les réactions des gens autour de moi. Vraiment, je trouvais, disait quelque chose parce que en en parlant autour de moi, le nom Vadim, je me suis rendu compte qu'il avait une résonance pour tout le monde. Pour les gens de l'âge de mes parents, pour mon père particulièrement, qui est très loin de tout ce milieu-là, etc., mais qui se souvenait des scandales qu'avait provoqué Vadim. En en parlant avec la mère d'une amie qui m'expliquait que quand elle était adolescente dans son institution religieuse de bonnes sœurs, chaque fois qu'un film de Vadim sortait, les bonnes sœurs faisaient le pied de grue à l'entrée des cinémas, si j'ose dire, pour repérer leurs élèves qui pourraient rentrer. Et tout ça, ça m'a, entre guillemets, à moi qui n'ai pas du tout connu cette époque, fait prendre conscience que Vadim avait été quelque chose d'énorme. On l'oublie maintenant parce qu'il a été oublié, la postérité des films n'était pas énorme, mais en tout cas, les chiffres d'entrée, c'est délirant. Enfin, je veux dire, c'est 4 millions pour Les Liaisons Dangereuses, 5 ou 6 millions pour Le Repos du Guerrier, voilà, des films qui sont à peine maintenant rediffusés, mais en tout cas qui montraient la dimension, en tout cas populaire et pop, de cet homme.
Et c'est un texte très intimiste, parce que vous mettez en scène, Clément Gis, dans ce livre, vous racontez votre rapport à Vadim, et donc le décalage qu'il y a entre votre vie et cette époque.
J'ai essayé de comprendre, en prenant un personnage comme ça, qui est quasiment un totem d'une époque heureuse, en tout cas qui faisait semblant d'être heureuse, qui faisait semblant d'oublier la guerre d'Algérie, le bloc de l'Est, etc., et qui se concentrait, qui créait comme ça des petites figurines comme ça, magnifiques, jouisseuses, que ce soit Sagan, que ce soit Vadim, mais aussi Saint-Laurent, Buffet, comme ça, qui s'était trouvé des petites marionnettes magnifiques. J'essayais de comprendre pourquoi est-ce que ces marionnettes-là, elles sont encore dans notre inconscient collectif, et qu'est-ce que moi j'avais à en dire. J'ai quand même pas l'impression qu'on vit dans une époque qui en tout cas fait semblant d'être heureuse, c'est plutôt une époque qui n'est pas très heureuse. Et j'ai voulu essayer de jouer au comparatif et d'essayer de m'immerger dans ce monde-là, que le souvenir de cette époque l'a transformé en quelque chose d'autre. Parce que Vadim, je trouve c'est un personnage intéressant parce que c'est un personnage qui a joué un rôle clé dans le développement de la Nouvelle Vague, qui a été, il y a eu des papiers sur lui dans les cahiers du cinéma ou dans Art, dans la revue Art, dans laquelle écrivait Truffaut, qui...
Soutenu même par Godard, incroyable.
Soutenu même par Godard, qui a dit cette phrase incroyable: on ne peut pas féliciter Vadim d'être en avance, mais on peut le féliciter d'être à l'heure. Donc l'idée d'être quelqu'un à l'heure, je trouve que c'est d'être à l'heure juste dans son époque, de son temps, c'est quelque chose qui m'intéressait. Parce que cette France-là que Vadim représente, On en garde le souvenir, mais ça, elle a beaucoup changé. Ça, c'est les cahiers du cinéma en parlaient. Maintenant, on en parle chez Michel Drucker. Enfin, voilà. Il y a tout un spectre très, très large d'une culture française, que ça aille de quelque chose de très intellectuel à quelque chose de très télévisuel, pour lequel j'ai eu beaucoup de sympathie, hein. Mais voilà, c'est un personnage que je trouvais intéressant à analyser.
La bonne idée de ce livre, Clément Gis, Vadim, le plaisir sans remords, c'est que vous ne faites pas le portrait de Vadim à partir de ses films. À la limite, ces films, vous le dites tout de suite, hein, ils ont vieilli, ils ont pris un coup de vieux, et c'est pas ça qui vous intéresse. Donc vous avez plutôt fait une enquête en parlant aux gens qui l'ont connu ou aux gens qui ont connu son époque et en n'hésitant surtout pas à aller voir du côté de la presse People où il était très présent à l'époque.
Absolument, j'ai rencontré des gens, j'ai vu les films, etc. Mais je me suis surtout retrouvé face à des masses de documentation énormes. Je parlais des cahiers du cinéma, etc. Mais aussi des piles et des piles là, d'articles de France Soir, France Dimanche, de magazines qui n'existent plus, comme le magazine Candide, qui était le magazine culturel gaulliste. Ça m'a intéressé de voir comment quelqu'un qui avait été à la une des journaux, vraiment, quand Vadim, dans les années 60, faisait la une des journaux et s'était suivi de pages et de pages sur lui, mais il ne reste plus rien de ça. Et moi, qui suis journaliste et qui travaille à M, le magazine du Monde, et on consacre des sujets à des gens, etc., j'étais curieux de me replonger dans la personne qui avait été la sensation il y a 50 ans, d'essayer de retrouver qui était vraiment Annette Strugberg, qui était la starlette dont tout le monde parlait entre 1959 et 1960, d'essayer de comprendre en tout cas ce qu'avaient pu être les sensations absolues qu'ont été Bardot et Deneuve quand elles sont arrivées dans le cinéma. Il y avait cette idée-là de me replonger dans ce présent-là, de comprendre quel peut être le choc que peut être Bardot à 22 ans dans un film.
Et on a l'impression, au fil des pages de ce livre, Vadim, le plaisir sans remords, que cette liberté-là, elle est perdue à jamais, qu'elle n'a pas été remplacée par une autre, pour votre époque, par exemple.
Moi, je pense que c'est ça que j'ai essayé de comprendre, c'est que j'ai quand même l'impression que cette époque de bonheur nous crache encore à la gueule son bonheur, même si elle a disparu. On se met encore dans ces modèles-là de bonheur, etc. Ou de plaisir, de jouissance. Il nous reste encore à inventer d'autres modèles de plaisir. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre aussi « Le plaisir sans remords », parce que il y a quand même une idée aujourd'hui qui flotte dans l'air, c'est pas une vérité scientifique, mais que le plaisir doit se vivre aujourd'hui avec des remords, ou avec des excuses, ou avec des explications. Et là, en racontant Vadim, j'ai voulu raconter une bande de, je vais encore être vulgaire, mais de petits cons, qui s'amusaient à Megève, à Saint-Tropez, à Malibu, à
Rome. Vous avez trouvé plutôt une belle expression, vous êtes des vagabonds élégants.
Des vagabonds élégants qui aiment bien les voitures et qui aiment bien s'amuser et faire la fête jusqu'à 7h du matin sur une plage, et c'est sympathique. Mais
ça avait du sens, vous dites que c'était des gens qui avaient connu quand même la guerre, qui étaient sortis de cette page terrible qui était la guerre, et que cette liberté, cette envie de fête avait un certain sens, et quand ils le faisaient avec une liberté. J'aime bien ce passage où vous dites « Être libre à Saint-Germain-des-Prés, qu'est-ce que ça signifie ? Baiser, danser, boire, se droguer, quoi d'autre ?» Qui n'a pas fait ça ou qui ne l'a pas tenté? On leur avait pas demandé de vagabonder dans les rues, de déranger tout un quartier pour quelques morceaux de jazz. Non, personne ne leur avait donné de consigne. Vadim et ses amis étaient laissés à l'abandon. Plus tard, les années 60 et les décennies d'après donnèrent l'injonction du plaisir. Mais là, pas encore. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que quand ils se droguaient, quand ils buvaient, ils ne le faisaient pas pour avoir une posture. C'était vraiment quelque chose de libre. Et vous dites aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que les fils de bourges se mélangeaient au prolo. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait passer une soirée avec une jolie fille qui allait se retrouver dans une chambre de bonne quand l'autre allait rejoindre sa belle maison dans le 16e arrondissement.
Quand on se replonge en tout cas dans ce qui était l'imagerie people, l'imagerie pop des années 60, on voit qu'il y avait une forme de liberté, de hiérarchie. Alors, elle était probablement fabriquée, probablement mise en scène, probablement...
Cantonnée aux grandes villes.
Tout ça est vrai, évidemment. Mais, en tout cas, cette jouissance-là s'exprime en tout cas différemment qu'aujourd'hui. Si je caricature aujourd'hui l'idée des gens dans le coup, des gens dans le coup aujourd'hui, en ce moment, à Paris, en mai 2017...
C'est après injonction des médias...
Ce serait des gens... pas forcément appréciable et pas forcément voilà des gens d'un matérialisme absolu, enfin on en croise des fois, on en voit à la télé, c'est des gens matérialiste et pas très intéressant. Là, il y avait une forme de... En tout cas, c'était mis en scène comme s'il y avait une forme de liberté, mais aussi de genre intellectuel, qui avait, Vadim avait un vrai regard sur la guerre d'Algérie, sur l'avortement, etc. J'ai pas l'impression que les mondains absolus qui passent leur vie au Montana, rue Saint-Benoît en ce moment, mettent autant en scène que ça leur liberté.
Aujourd'hui, on dirait qu'il est cool, Roger Vadim.
On dirait qu'il est cool, je trouve que c'est... Oui, ou chébrant, ou je sais pas, ou hype, on dirait qu'il est hype peut-être, je sais pas.
Et la vie passait avant le cinéma chez lui?
La vie passait avant le cinéma, clairement. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que c'est... Roger Vadim, cinéaste, oui, mais le cinéma, il le faisait parce que ça lui permettait de mettre en scène un monde, parce que ça lui permettait de filmer des filles avec qui il était. Quand on compare aux autres cinéastes de l'époque, qui pour le coup ont modifié notre façon de voir, et je parle des plus connus, que ce soit Godard, Truffaut, etc. C'est des gens pour qui l'image était absolue, enfin, il y avait un culte de l'image merveilleux. Vadim n'était pas particulièrement dans une théorie du cinéma, ni dans un point
marquant.
Oui,
mais il l'assumait. Justement, je vous propose d'écouter une interview de Roger Vadim. C'était en 1962, dans l'émission Ciné Panorama de François Chalet. Et c'était pendant le tournage du film Le Vice et la Vertu avec Catherine Deneuve.
Après avoir lancé un certain nombre d'actrices dont la liste n'est pas longue, mais enfin qui compte, vous vous apprêtez à lancer une nouvelle comédienne, Catherine Deneuve. En somme, on pourrait dire, et Vadim créa sa femme. Que pensez-vous de Catherine Deneuve?
Catherine était actrice avant que je la rencontre. Elle avait déjà tourné. Elle s'est débrouillée, je crois, assez bien. En fait, c'est la première fois que je tourne avec elle. Je crois sincèrement que si elle ne m'avait jamais rencontré, ça aurait peut-être duré un an de plus, mais qu'elle aurait eu exactement la même carrière.
Est-ce que vous croyez qu'on peut fabriquer une actrice? Vous l'avez déjà changée, enfin elle n'est plus pareille même physiquement. Est-ce que c'est une manie que vous avez de transformer les gens, ou bien est-ce que ça vous paraît, vous pensez que vous allez dans le sens du personnage, de la personne, que la personne s'ignorait avant que vous n'arriviez?
C'est un petit peu difficile à dire, je crois que ce sont les deux, car lorsqu'on voit quelqu'un beaucoup, lorsqu'on a des relations d'intimité, d'amitié ou de tendresse, il est certain qu'on change. Alors, qui change le plus? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Souvent c'est l'homme, d'autres fois c'est la femme. J'ai l'impression que je change un petit peu moi-même, tout en faisant changer davantage.
Un témoignage de 1962, Roger Vadim interviewé par François Chalet. Un mot, Clément Gis?
Ce moment est assez intéressant parce que déjà, on a toujours dit que Vadim avait créé ses femmes. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus macho et de plus horrible que de dire qu'un homme crée une femme, et d'autant plus dans ces cas précis d'un homme plus âgé qui a le pouvoir, entre guillemets, de l'argent et de la célébrité. Mais ce que je trouve intéressant sur cette question de Vadim Pygmalion, auquel il répond assez bien, je trouve d'ailleurs, Vadim, pour moi, est le fan absolu. Ça veut dire qu'il voit avant tout le monde, avant que ces femmes-là soient vraiment connues, leur potentiel magnifique. Et il les regarde tellement, il est fasciné par elles. Et ce regard-là, c'est vraiment le regard du fan qui tend un miroir à la future idole. Enfin, je parle en grands mots, mais et c'est ce regard-là qui est créateur. Et c'est ça que j'avais envie de comprendre. Comment est-ce que un regard absolument fan, comme avait Vadim devant la jeune Bardot, devant la jeune Fonda, devant la jeune Deneuve, pouvait être créateur? Donc au final, ça crée pas des bons films, voilà. Mais ça crée des personnages. Et si on pense par exemple surtout à Bardot et à Deneuve, qui sont quand même dans notre imaginaire collectif des choses énormes, et pour des raisons extrêmement différentes, et Deneuve ayant, à mon avis, la plus belle filmographie du siècle, à peu près, je trouve ça qu'il y a quelque chose d'assez bouleversant d'imaginer ce que ces jeunes filles, ou jeunes hommes, on pourrait dire quelque chose de Delon, etc., étaient juste avant le moment où ça s'enclenche, où cette espèce de féerie pop, enfin de féerie comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très romanesque dans cette idée-là.
Et comme dans tout univers romanesque, il y a aussi ces pages de un peu plus tristes, par exemple, quand vous racontez comment d'acteurs de son époque, c'est-à-dire les années 50 et 60, Roger Vadim va devenir spectateur d'un monde qui lui échappe des années 70 jusqu'à sa mort en 2000.
C'est ça, en fait, qui me touche presque le plus, c'est Vadim, c'est que c'était un homme qui était absolument à l'heure juste, comme disait Godard, et qu'évidemment, quand on est à l'heure, au bout d'un moment, ça retarde, ça débloque. Et je trouve ça très intéressant de comprendre comment celui qui avait été ce totem absolu de son temps, comment ça se délite petit à petit. Au départ, c'est juste un film qu'on fait pas. Ou bien c'est sa femme, Jane Fonda, qui devient féministe, qui à l'époque, et ce qui est encore maintenant, est l'évidence. Comment est-ce que, d'un coup, les producteurs vous rappellent plus? Comment est-ce que le cinéma change? Comment est-ce que il fait Barbarella, qui est une espèce de fantasy pop, de science-fiction, qui est un film très amusant à voir? Mais quand il sort en octobre 68, quatre mois avant, est sorti 2001 Odyssée de l'espace. Et qui est le film qui a bouleversé notre vision de la science-fiction, de l'espace, d'à peu près tout, de l'histoire, etc. Et ça m'intéressait de comprendre comment, Vadim, même en essayant avec Barbarella à faire un truc, à faire un film totalement pop, dans l'époque, à l'heure juste, et ben en fait non, ça se délite. Et je trouve qu'il y a quelque chose presque du bal des têtes de Proust, quoi, de comment est-ce que le temps passe et il ne reste plus qu'une espèce de l'armature des êtres et donc des films. Et voilà, et ça m'intéressait d'autant plus, c'est que je trouve qu'aujourd'hui on se penche beaucoup sur ces époques bénies, et le livre que j'ai fait rentre là-dedans, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'avait été la France pop. Parce que on parle tout le temps de l'imagerie pop anglo-saxonne, à juste titre, puisque c'est de là que ça vient. Mais Vadim, je trouve, il y a un personnage assez intéressant là-dessus, c'est que très nourri, très énervé des cultures pop anglo-saxonnes, mais il a dessiné les contours d'une culture pop à la française, avec d'autres gens évidemment. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant de voir, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui.
Clément Gis, Vadim, Le plaisir sans remords, c'est édité chez Stock. Bonjour Aurélien Jeancourt.
Bonjour Toufik, bonjour Clément Gis.
Voilà, du magazine Transfuge,
oui.
Dire partenaire, les coups de cœur. Mais d'abord, avant les coups de cœur, est-ce que vous pouvez imaginer quel est le premier film de Roger Vadim que Clément Gis, je rappelle, né en 1985, a vu?
Que ce serait Barbarella, moi je trouve qu'il est le film le plus comique de Vadim.
Non.
Tout le monde l'a vu. Tous les Français l'ont vu.
Et Dieu créa.
Ça dure 2 minutes. Non, 1 minute 30.
Ah bah dites-moi, là je ne tiens plus.
C'est la pub Slim Fast en 1980.
Parce qu'il a fait ça.
Ah là là, c'est triste. Et en même temps, ça montre sa proximité fondamentale avec les femmes.
Avec la question
et
du
corps.
Alors, les coups de cœur. On commence par le cinéma. Ou par les séries.
Mais écoutez, on peut commencer par le cinéma, puisqu'on est dans le cinéma. En effet, dans notre numéro de mai, donc.
De Transfuge.
Eh bien, on essaye de se pencher sur les films très attendus du Festival de Cannes. Et notre équipe cinéma va en débattre, c'est-à-dire Antoine Debecq, François Bégodeau, Damien Aubel, Frédéric Mercier. Donc, ils débattent, Sidi Sacco. Ils débattent des films très attendus. Par exemple, la biographie de Godard, d'Azana Fissius, dont on parle beaucoup. Alors, ils disent évidemment leur crainte, est-ce qu'on peut faire de Godard un personnage? Est-ce qu'Azana Fissius est vraiment le réalisateur pour faire son Godard?
C'est un personnage aussi réel et pop que romanesque que Roger Vadim.
Oui, pop, c'est pas forcément sûr, mais bon, à moins que la Suisse soit pop.
C'est l'année bascule, hein. Il a été un peu avant.
Enfin bon, donc ils débattent dans nos pages aussi de la présence de Haneke à Cannes, de Jacques Doyon, de Robin Campillo. On espère beaucoup que ce soit son moment de reconnaissance, parce que c'est un cinéaste qu'on suit depuis des années, et donc on espère vraiment que Cannes soit le moment où on en parle plus que jusqu'à maintenant.
Et cette année, c'est bien sûr l'arrivée de Netflix, Amazon, au Festival de Cannes, et pas seulement des séries télé. Ouais. Et Thierry Frémaux, il a beau dire que c'est juste pour avoir des nouvelles de nos amis cinéastes, c'est quand même l'année où les séries télé s'imposent au Festival de Cannes. Ça tombe bien, vous aimez les séries télé?
Oui, on aime les séries télé, et puis ça tombe bien puisqu'on parle d'une série de Netflix qui est sans doute sa plus grande réussite jusqu'à maintenant, en tout cas en qualité, c'est House of Cards. Voilà, là on s'interroge parce que vous le savez bien sûr que la saison 5 va commencer en mai, et donc on se demande si cette série est vraiment la série de l'ère Trump, parce que vous savez, c'est toujours très étonnant quand on regarde House of Cards, ça a été créé sous Obama, et Obama c'est quand même l'apogée de la démocratie américaine. C'est très étonnant qu'une série aussi noire, aussi shakespearienne, aussi fondamentalement pessimiste sur le pouvoir, aussi hobbesienne.
Ah ben ils avaient du flair, c'est tout.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on l'aura beaucoup autour de la saison 3 aux États-Unis, et on va revoir les critiques, les écrivains, notamment Daniel Mandelson, on va les interviewer. Et ces gens-là commençaient à dire c'est une excellente série, mais alors vraiment politiquement elle est à côté de la plaque, parce que voir chose d'aussi noir sur la politique, et puis voilà Trump, et alors on est retourné voir ces gens-là, ces Américains, et notamment aussi des politiques, et on leur a dit finalement est-ce qu'ils n'avaient pas du nez, est-ce que finalement les grandes œuvres ne sont pas là pour sentir ce qui va arriver, et en effet c'est à peu près ça qui en ressort.
Merci beaucoup d'être passé, Aurélien
Jeancourt. Mais je vous en prie.
Bon, Festival de Cannes, à vous Clément Gisse aussi.
Ben vous aussi.
Vadim, le plaisir sans remords, c'est le titre de votre livre, le premier, édité chez Stock. Merci d'être passé ce matin nous en parler.
Merci.